Ce qui est sûr, c'est que les actes de violence, à travers principalement des plastiquages, quelques meurtres, mais dont on ne peut pas affirmer d'entrée de jeu l'origine et la signification politique, pas beaucoup, mais quelques meurtres, quelques-uns de trop, tout cela n'a pas cessé depuis 1998. Il y a eu certes quelques accalmies. Ce qui est certain, c'est que la violence est assez largement condamnée, sinon unanimement. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a une aile du mouvement nationaliste qui ne se décide pas à cesser de cautionner la violence, au moins de façon un peu tacite, hein. Il n'y a pas de désaveu de la clandestinité de la violence. Par contre, il y a une autre aile du mouvement nationaliste qui a pris très nettement position, beaucoup plus nettement que ce n'était le cas il y a 10 ans, hein, contre la violence et la clandestinité, en même temps d'ailleurs que contre l'objectif de l'indépendance, tout en continuant de militer pour une autonomie interne. Donc il est clair qu'il y a des gens aujourd'hui qui se réclament du nationalisme, c'est une minorité hein, de toute façon, et qui en même temps pensent et affirment que la violence est éthiquement condamnable et politiquement contre-productive, que le temps n'est plus à la violence. Et cependant, il y a encore quelques attentats de ci, de là. Mais on ne peut pas dire qu'on soit dans une période de très grand échauffement et de très grande agitation hein, par rapport à ces objectifs que sont la revendication de l'indépendance ou la revendication de l'autonomie au prix, pour certains, hein, pour certains seulement, d'une lutte armée. Quant à l'assassinat du préfet Erignac, il a eu lieu il y a 10 ans, il n'a pas été oublié, il a été un grand choc, un grand choc. L'examen de conscience, que dire de cet examen de conscience sinon que ceux qui ont déploré l'attentat, qui l'ont très sévèrement condamné, et dont certains sont d'inspiration nationaliste, n'en ont pas moins continué de militer dans le sens du nationalisme. Hein. Alors, est-ce le nationalisme qui a produit en direct l'assassinat d'Erignac, certes, ce n'est pas étranger à la cause nationaliste, mais la preuve a été faite par des arrestations que aucun des membres du commando n'appartenait à quelque équipe dirigeante du mouvement nationaliste au moment où la chose s'est produite. Alors, quelques années plus tôt, qu'étaient ces hommes? C'étaient certainement des militants nationalistes, mais ils n'étaient pas sur l'avant-scène du mouvement nationaliste au moment où ça s'est produit. Donc ce commando a agi, à mon sens, hein, et d'après beaucoup de gens, de façon très isolée et dans une espèce d'accès qu'il faut appeler carrément un accès de fanatisme. Hein.
On peut imaginer que depuis 10 ans, l'Église corse a eu le temps de prendre la parole sur ces faits et sur ce nationalisme quand il est violent.
Sur la violence, ça a été fait 36 fois, c'est refait de façon périodique, mais on prêche à des convaincus, hein, en ce sens que on a une masse de gens devant nous qui sont absolument convaincus du caractère aberrant, hein, en tout cas inacceptable, de la violence. Après, on a des militants dont certains en sont fermement d'accord, y compris des militants nationalistes. Hein. Je vous ai dit qu'il y a une aile du mouvement nationaliste qui juge actuellement la violence inacceptable. Et quand on discute avec tel ou tel de l'équipe dirigeante de la fraction extrémiste, appelons ça la fraction extrémiste du mouvement nationaliste, ils vous disent que ils ne sont pas en mesure de condamner aujourd'hui ce moyen de pression. Et donc, on peut discuter avec eux, leur dire et leur redire que c'est inacceptable, que c'est éthiquement inacceptable, que politiquement, ça ne joue pas en faveur de leurs revendications, mais ça joue dans le sens de l'impopularité de leurs revendications. Après quoi, ce qu'il faut faire, c'est un travail positif pour créer les conditions d'une dynamique de paix. Ça, l'Église de Corse le fait par des interventions périodiques d'évêques. On le fait aussi à travers quelques manifestations. Ensuite, à l'approche de ce procès, il y a eu un appel de l'évêque que vous pourriez retrouver dans le numéro d'octobre de notre revue Église de Corse. Et l'évêque montre bien que par rapport à ce procès, il faut se poser des questions sur la manière d'abord d'être en communion avec les deux familles. Car il y a une famille inconsolable, c'est la famille Rignac, et il y a une famille qui est sur la sellette depuis le moment où, dans l'opinion, on a désigné Yvan Colonna comme le meurtrier, et surtout depuis le moment où, après 4 ans de cavale, il a été arrêté, et où, pour une partie de l'opinion, il est beaucoup moins présumé innocent que présumé coupable. Bon, donc il y a une famille là qui est dans la difficulté. Et ce que nous voudrions, et qui a été répercuté, peut-être pas suffisamment, mais répercuté quand même à travers le diocèse, c'est que la réflexion et la prière doivent avoir pour but que ce procès, quel que soit le verdict qui sera prononcé en fin de compte, se fasse sans a priori ni passion, dans la sérénité, la rigueur et le respect des droits de tous. Quand on dit sans a priori ni passion, l'a priori et la passion sont des deux côtés, hein. Aussi bien, on ne les sent pas trop dans la rue, mais on sait bien qu'ils y sont, les a priori et les passions, du côté de ceux pour qui il est évident que Yvan Colonna est le meurtrier, et du côté de ceux qui, en défendant Yvan Colonna, défendent aussi, bien sûr, la cause du nationalisme.